Good Morning Business, la matinale de l'économie.
Et c'est Raphaël Gorgé qui nous a rejoint. Bonjour, le PDG d'Excel Technologies. On est très ravis, vous voyez, comme quoi on est très content de vous recevoir ce matin. On est avec Michel Cabirol. Bonjour, de la Tribune. Bonjour. Et avec Jean-Baptiste Huette qui est avec nous depuis l'ouverture de la matinale ce matin. Nos spécialistes défense. On disait c'est une très belle opération que vous signez avec Thales aujourd'hui. Excel, qui est une de nos pépites françaises. Avant de parler du prix, avant de rentrer dans les détails, est-ce que vous vouliez vendre, Raphaël?
Alors, je ne voulais pas vendre. J'avais à cœur de trouver la meilleure solution pour Excel à la veille d'une opération de refinancement que nous allions monter, à laquelle nous préparions d'ailleurs depuis un an, et on avait déjà levé sur les marchés près de 550 millions. Donc, même s'il n'y avait pas d'inquiétude sur notre capacité à refinancer, c'était important d'explorer toutes les options pour assurer le meilleur avenir à la fois à l'entreprise, à ses salariés, dont une grande partie sont actionnaires également, et puis aussi aux actionnaires minoritaires et au groupe familial que je représente.
Et c'est-à-dire que vous n'aviez pas trouvé les solutions de financement possibles pour faire un refinancement simple de dette?
On aurait pu les trouver. C'est vrai que les fonds qui étaient prêts à nous accompagner sur des augmentations de capital à des niveaux satisfaisants ne se sont pas bousculés eu égard au caractère stratégique du groupe. On ne peut pas faire entrer n'importe qui au capital d'Excel. Mais j'avais aucune inquiétude sur notre capacité à refinancer. Après, est-ce que ça aurait été un bon choix de repartir avec près de l'ordre de grandeur, c'est 1 milliard de dettes, alors que l'entreprise est face à un développement à venir exceptionnel, et qu'il est vrai qu'une dette de cette importance aurait pesé sur nos capacités de développement, là où il faut, à mon avis, plutôt accélérer.
Michel, Jean-Baptiste ?
Alors, Michel. Alors, moi, ce que je pense, c'est vrai, évidemment une très très belle opération pour trois raisons, mais peut-être que Raphaël Gorgé précisera. Moi, je pense que trois points, c'est effectivement la création d'un leader mondial, une complémentarité dans le portefeuille des deux sociétés et surtout un marché qui va exploser et qui va passer de 85 milliards à 700 milliards. Donc, il y a de quoi, il y a la place pour tout le monde, mais il y a la place pour un leader mondial qui est la fusion entre
Excel
et Thales.
Mais vous étiez parfois avec Thales sur des offres ensemble?
C'est une vieille histoire, la relation entre Thales et mon groupe, puisque souvent on a été concurrents, parfois partenaires, on était sur les marchés. Je pense qu'ils reconnaîtront qu'on a eu un petit peu plus de succès qu'eux au cours des dernières années sur le marché spécifique de la guerre des mines, mais ils ont aussi des solutions et une architecture globale très intéressante. Je pense que la combinaison des deux va être absolument remarquable.
Jean-Baptiste.
C'est plus une remarque qu'une question, mais c'est vrai que je suis assez bluffé par le parcours qui a été fait par Excel ces dernières années. Vous aviez fusionné XBlue, qui était comme une pépite assez incroyable, et en même temps RCA Group avec les drones, fusion de ces deux-là, en 2022, 410 millions d'euros. Vous aviez acheté XBlue. Aujourd'hui, on a quand même un groupe maintenant qui est valorisé 3 milliards 9. Il y a quand même un travail absolument incroyable qui a été fait de votre part. Il faut le saluer quand même.
Alors, ça n'est pas que mon travail. Moi, j'ai modestement organisé un petit peu tout ça. Les équipes ont fait un travail formidable. C'est aussi les produits qui ont été développés, et c'est des cycles longs, que ce soit dans l'inertiel ou dans la robotique navale. C'est plus d'une dizaine d'années dans les deux cas pour arriver à des produits qui sont aujourd'hui au meilleur niveau mondial. Donc c'est aussi ça les fruits que chacun récolte aujourd'hui. C'est ça, c'est les temps longs de l'industrie sur des industries souveraines. Ça prend du temps et c'est vrai que ça s'est matérialisé de manière formidable avec un contexte géopolitique qui a fait prendre conscience à chacun de l'importance d'avoir des activités souveraines, de dépendre moins des États-Unis. C'est la combinaison de tous ces paramètres qui font le succès d'aujourd'hui.
Avec un carnet de commandes qui est ultra plein.
Oui, et dont je pense qu'il va continuer à se remplir. Plus d'un milliard de carnets de commandes, beaucoup sur les activités de robotique, mais avec des perspectives sur l'inertiel qui sont aussi extrêmement importantes. Et je rappelle au passage que ça se voit moins, mais on travaille aussi en arrière-plan sur des technologies extrêmement poussées, dans le domaine de la photonique, dans le domaine du quantique, un point qu'on retrouve avec Thales, dans le domaine des lasers haute puissance. Toutes ces technologies-là vont, à mon avis, contribuer au succès de la nouvelle entreprise dans le futur.
Alors, ça a intéressé du monde, Michel, parce que d'abord, il y a eu des discussions avec Safran au départ. Ça ne s'est pas fait, Raphaël Gorgé. Et puis, c'est allé très vite avec Thales. Vous avez dit, en quelques demi-journées, on a réglé le sujet pour une opération d'ampleur.
Oui, alors c'est vrai que nous étions en négociation exclusive avec Safran. Négociations qui ont été terminées vendredi en fin de journée. Et je dois reconnaître que j'ai été tout à fait étonné, positivement étonné, par la capacité de Thales à réagir très vite dès l'annonce de la fin de ces négociations, puisqu'ils sont entrés en contact avec nous dans la soirée.
Ah oui.
Et nous avons commencé j'ai reçu une offre un peu après minuit. Nous avons commencé à nous mettre ensemble pour travailler sur ces documents et ça a été terminé le samedi matin très tôt. Donc ça s'est réglé en quelques heures, en sachant que les deux entreprises se connaissaient bien. Hein, ils n'achetaient pas non plus quelque chose d'inconnu. Mais j'ai été bluffé par la rapidité.
Qu'est-ce que ça nous dit, Michel de Thales?
Moi, ça veut dire que Thales voulait absolument racheter évidemment le groupe Exel Technologies. Et puis ça veut dire que 4 ans auparavant, les deux groupes s'étaient un peu fightés sur le rachat de XBlue. Donc il y avait Thales et il y avait le groupe Gorgé. Et donc ça prouve qu'il y a une constance dans la stratégie de Thales de racheter et de se renforcer dans la lutte sous-marine, où il fait à peu près un peu plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc les deux, encore une fois, c'est vraiment une belle combinaison, c'est une belle complémentarité et ça va créer encore une fois le leader mondial de la lutte anti-sous-marine.
Et on peut faire des deals en quelques heures?
Ça c'est étonnant de la part d'un groupe comme Thales. Après, Raphaël Gorgé l'a bien dit, ils étaient grosso modo dans les starting blocks, donc ils étaient prêts à faire une offre et ils étaient prêts à ils avaient très très envie de d'Exel et ils l'ont montré, ils l'ont démontré.
3,9 milliards d'euros la valorisation pour Exel après la proposition de Thales, ça fait 134 € par action. Vous vouliez rectifier sur le prix?
Oui, il y a eu peut-être un petit mélange entre la capitalisation boursière correspondante qui est d'environ 2,3 milliards et la valeur d'entreprise qui inclut, c'est-à-dire un certain nombre de dettes, notamment le refinancement d'ICG, la part des actionnaires minoritaires qui sont très largement salariés, qui représentent aussi une somme très significative. Donc on parle bien d'une valeur d'entreprise de 3,9 milliards à comparer avec ce que proposait Safran, qui était environ 200 millions inférieurs.
Donc l'écart n'est pas... on a dit deux fois, il est beaucoup plus petit.
L'écart est très significatif, mais il n'est pas d'1,7 milliard. C'est bien 200 millions à peu près.
On parlait du cours de bourse, justement, qui est pour l'instant resté autour des 122. Bon, il avait beaucoup grimpé ces derniers jours. C'est quoi l'explication que vous y voyez? Normalement, on se rapproche de l'offre faite par celui qui propose.
J'imagine qu'on va s'en rapprocher rapidement. Il n'y a pas de mon point de vue, il n'y a pas d'incertitude sur l'opération. Les seuls éléments à lever maintenant... moi je suis engagé, mon groupe Familia est engagé à céder à Thales et réciproquement qui est engagé à nous acheter. C'est que simplement la durée des processus anti-concurrence en Europe, antitrust et dans d'autres pays prennent un certain temps. J'espère que ça sera un petit peu plus court que ce qu'on a pu indiquer. J'imagine que c'est simplement ça, le fait de la durée de l'opération qui fait que le cours ne s'ajuste pas tout à fait.
Jean-Baptiste.
C'était une petite question technique que je me posais, effectivement. XBlue et donc Exel étaient plutôt spécialisés, notamment dans les centrales inertielles. C'est Thales qui est dans les centrales inertielles à laser et vous qui êtes dans les centrales inertielles à fibre optique. Quelle est la différence entre ces deux types de centrales inertielles, alors qui permettent de se repérer sans GPS, je caricature un peu, mais quel est l'avantage pour Thales d'acquérir des centrales inertielles à fibre optique?
Alors, ils sont dans des marchés différents avant tout, ce sont pour des applications différentes. Les centrales inertielles de Thales, par exemple, à ma connaissance, sont beaucoup dans l'aéronautique, secteur où nous ne sommes pas du tout. Nous, on est plutôt dans les applications pour certaines de très haute performance, pour des lanceurs, pour des sous-marins, y compris les sous-marins les plus stratégiques de différentes marines. Donc, on est dans le domaine de la très haute performance pour le naval. Thales est présent dans d'autres applications, comme je le disais. La combinaison des deux va donner une position extrêmement intéressante pour nous permettre d'aborder des nouveaux marchés avec le rayonnement commercial de Thales, notamment sur les marchés terrestres également, mais aussi géographiques. Thales est très implanté aux États-Unis, ce qui va permettre de nous donner un levier là-dessus. Nous avions déjà des perspectives très importantes dans ce domaine-là. J'en attends beaucoup avec le rapprochement avec les équipes commerciales notamment.
Qu'est-ce qui n'a pas marché avec Safran? C'est une question de culture, c'est une question de prix?
C'est une question de secret des négociations,
d'accord,
je pense.
Voilà.
Donc je laisserai.
On n'en saura pas plus.
Bien tenté.
Mais j'essaye. Ça fait partie du job, Michel.
Alors, vous avez dit que la finalisation de l'opération, c'était au troisième trimestre 2027. Vous êtes montré tous les deux, Patrice Ken et vous-même, très rassurants sur le fait que vous allez avoir les autorisations des autorités anticoncurrentielles. Qu'est-ce qui vous fait croire que justement il n'y aura pas de problème?
Alors, c'est un domaine que Thales maîtrise beaucoup mieux que nous. Ils ont l'habitude de ces opérations internationales. Nous l'avions fait à une échelle plus réduite au moment de l'acquisition d'XBlue. Justement, ce processus avait pris un peu plus de 4 mois. Là, j'en ai discuté avec Patrice Ken et ses équipes, qui semblent très confiants sur le fait que, sur les points de concurrence localement dans chacun des pays, ça devrait aller. Et d'autant plus qu'on est sur des activités de défense qui peuvent permettre de simplifier un petit peu les processus.
Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste 2 minutes 30. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez toujours Calogena dans les SMR. Vous voulez rester dans l'industrie de l'armement? Vous avez déjà regardé des pépites?
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le groupe Gorgé va se retrouver avec des moyens extrêmement importants, additionnels. On en avait déjà. On continue à avoir plus d'un millier, 1300 personnes à peu près dans les secteurs, effectivement, du nucléaire, de l'énergie, de l'ingénierie. Et moi, ce que je sais faire, c'est avant tout développer des entreprises industrielles dans des secteurs qui peuvent être ceux de l'énergie, de la défense, du nucléaire, des hautes technologies. Et moi, j'ai envie de faire ça, de continuer. J'ai pas d'autres projets que de développer, continuer à développer le groupe avec des moyens qui, cette fois, seront encore plus importants. Donc, si des entrepreneurs, des grands groupes ou l'État, à un moment, a besoin d'un actionnaire.
Vous allez faire exploser votre terme, téléphone, là, ouais.
Pourquoi pas? Alors, j'ai un petit peu de temps pour ça, pas la peine d'appeler tout de suite, puisqu'il nous faut encore le temps de la réalisation qui va nous donner justement le temps de mettre en place cette nouvelle stratégie.
Merci beaucoup Raphaël Gorgé d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie pour nous parler donc de cette vente d'XL Technologies à Thales. Dans un instant, l'ouverture des marchés financiers avec Nicolas Pagnès que vous retrouvez dans quelques instants. Et puis les experts à partir de 9h30. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale 6h, 9h. Bonne journée.
BFM Business présente Good Morning Market. Nicolas Pagnès.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Good Morning Market. Nous sommes ensemble en direct sur BFM Business jusqu'à 9h30 pour tenter de décrypter la tendance des marchés à l'ouverture des marchés européens. On attend notamment un CAC 40 qui devrait ouvrir proche de l'équilibre, un DAX qui devrait potentiellement ouvrir en léger recul dans le sillage de marchés asiatiques qui ont clôturé dans le rouge. Donc cette nuit, on voit notamment un Nikkei qui recule de 2,12%, un Shanghai Composite qui recule de 1,19%, un Hang Seng qui recule de 0,6% et un Kospi qui a été plombé par les valeurs technologiques et notamment Samsung, alors que Samsung a fait état d'un bénéfice d'exploitation multiplié par 19 pour son deuxième trimestre 2026. Mais ça montre les questionnements des investisseurs sur la durabilité et la soutenabilité de la forte demande en matière de puces, alors que justement hier aux États-Unis le Dow Jones touchait un nouveau record porté notamment par la reprise des valeurs technologiques hier, après les avoir vues reculer la semaine dernière. C'est des questions qu'on abordera en plateau dans Good Morning Market. On aura le plaisir d'accueillir également Laurent Schauder, membre du comité d'investissement chez BDL Capital Management, à qui nous poserons une question. Existe-t-il encore des gérants qui n'ont pas de valeur IA en portefeuille? Et nous ferons le point ensuite avec Fidel Martin, président d'Exoé, sur les failles ou les fragilités que le marché ne veut pas voir à l'heure actuelle, avant de commenter l'ouverture des marchés avec Paul Marcel, cofondateur de l'atelier des options. Mais tout de suite, on commence avec le flash de Léo Dumas.
Good Morning Market, le journal.
Et c'est donc le sommet le plus scruté de l'année pour l'Alliance Atlantique. Les membres de l'OTAN se retrouvent pendant 2 jours à Ankara, en Turquie, avec sur place les dirigeants des 32 pays de l'Alliance et le secrétaire général de l'OTAN qui a donné le ton dès hier.
Le forum de l'industrie de défense du sommet de l'OTAN que nous accueillons aujourd'hui va être l'occasion de montrer comment nous collaborons avec l'industrie pour fournir les capacités qu'exige une dissuasion et une défense crédibles. Nous allons annoncer des dizaines de milliards de nouveaux contrats qui permettront de nous procurer les équipements essentiels pour dissuader nos adversaires et assurer notre défense.
Et justement, le premier contrat est déjà tombé. Il vient du Canada qui va acheter européen. Ottawa va signer avec l'allemand TKMS pour sa nouvelle flotte de sous-marins militaires, 12 appareils, les premiers livrables en 2034 pour notamment permettre au pays de sécuriser la région arctique. Et puis dans le secteur, il y a Exel Technologies et ses drones sous-marins qui vont se faire racheter par Thales. Rapprochement stratégique dans une opération à 3,9 milliards d'euros et rapprochement logique, nous dit ce matin le patron d'Exel, Raphaël Gorgé, sur BFM Business.
C'est une vieille histoire, la relation entre Thales et mon groupe, puisque souvent on a été concurrents, parfois partenaires, on était sur les marchés. Je pense qu'ils reconnaîtront qu'on a eu un petit peu plus de succès qu'eux au cours des dernières années sur le marché spécifique de la guerre des mines, mais ils ont aussi des solutions et une architecture globale très intéressante. Je pense que la combinaison des deux va être absolument remarquable.
Et avant le sommet de l'OTAN, Emmanuel Macron est à Damas, en Syrie, pour la première visite d'un chef d'État occidental sur place depuis la chute de Bachar al-Assad. Il est reçu par Ahmed al-Shara, ex-djihadiste, désormais président par intérim du pays, qui dans une interview à BFM TV affirme ce matin que la France participera à la reconstruction d'infrastructures dans plusieurs secteurs du pays et que Damas s'apprête à commander 8 appareils à Airbus. En attendant, le déficit commercial se dégrade à nouveau au mois de mai pour la France en raison d'une baisse des exportations, notamment de matériel militaire, nous disent les douanes ce matin. 1,5 milliard de trous supplémentaires pour atteindre moins 6,9 milliards d'euros.
Il est 9h01 et vous êtes toujours en direct sur BFM Business dans Good Morning Market avec un CAC 40 qui ouvre en progression de 0,39% à 8512 points. Le CAC 40 qui redépasse ce niveau symbolique des 8500 points. On commentera l'ouverture dans un instant. Mais juste avant, nous avons le plaisir d'accueillir Raphaël Legendre. Bonjour Raphaël.
Bonjour Nicolas.
Les experts, c'est à 9h30 en direct sur BFM Business. Quel est le programme des experts aujourd'hui?
On a une actualité chargée aujourd'hui. On va en discuter ensemble pendant une heure. On va commencer par le comité d'alerte des finances publiques qui se réunit aujourd'hui à Bercy en présence du Premier ministre. Alors, le gouvernement peut-il encore tenir sa trajectoire de réduction déficit alors même que la croissance devrait être revue à la baisse? Ce sera le premier thème ce matin. On va évidemment revenir sur le moment politique du jour, la décision en appel concernant Marine Le Pen. Qu'est-ce que cela change pour le monde économique, que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen se présente? La France risque-t-elle un effet Liz Truss sur les marchés en cas d'élection du Rassemblement National? On reviendra par ailleurs la présentation de la trajectoire budgétaire allemande qui prévoit pas moins de 600 milliards d'euros d'investissement dans la défense. Un réarmement à crédit peut-il sauver l'Europe? Ce sera le troisième débat des experts. Et puis on viendra sur l'IA chinoise, tout aussi performante, mais moins chère que l'IA américaine. L'Europe est en train de s'équiper. On va voir les conséquences. Voilà, pour commenter tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Provost, directeur associé de Rumeurs Publiques, Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, et Thomas Grébine, enseignant à Sciences Po. À tout à l'heure, 9h30.
Et le CAC 40 qui progresse de 0,41% à l'heure où on se parle, donc à 8512 points. Le CAC 40 qui repasse au-dessus des 8500 points après être passé en dessous hier en clôture. On voit que le DAX recule de 0,12% à 25 791 points. L'Eurostock 50 qui de son côté lui recule légèrement, moins 0,27% à 6380 points. Parmi les valeurs qui font la tendance aujourd'hui à la Bourse de Paris, on voit que Renault gagne 1,99%. Capgemini gagne 2,24%, Pernod Ricard 2,4% ou encore Dassault Systèmes plus 1,98%. Parmi les plus fortes baisses du jour, on note notamment ST Microelectronics, moins 3,16%, Schneider Electric, moins 1,54%, Safran, moins 0,6%. Du côté du pétrole, on a constaté depuis ce matin une très légère progression. Le baril de Brent repasse juste en dessous des 73$. Le WTI est lui au-dessus des 69$. À noter parmi les autres valeurs à suivre que Exail Technologies, dont on a beaucoup parlé ce matin sur BFM Business. Le titre est actuellement à 124€, alors que Thales a hier fait une offre sur le titre à 134€ à l'issue d'une OPA qui va prendre un petit peu de temps, mais qui a été annoncée hier. On voit également que Samsung Electronics recule à moins 6,92%. Alors hier, aux États-Unis, on a vu les valeurs de la tech et les semi-conducteurs tirer la cote, poussant d'ailleurs le Dow Jones sur un nouveau nouveau record. On voit aujourd'hui qu'en Asie, malgré un bénéfice d'exploitation annoncé par Samsung multiplié par 19 au deuxième trimestre de l'année 2026, cela ne suffit pas à lever les doutes d'un certain nombre d'investisseurs sur la soutenabilité de la demande en matière de semi-conducteurs. Et Samsung Electronics, qui a perdu jusqu'à 9% en séance et qui perd à l'heure actuelle 6,92%. On reviendra dans un instant justement sur le plateau de Good Morning Market sur les questionnements qui peuvent exister vis-à-vis de la thématique intelligence artificielle, et on demandera à notre invité dans un instant, Laurent Chauderge de chez BDL Capital Management, si tous les gérants ont forcément de l'IA en portefeuille. On se retrouve tout de suite.
BFM Business présente Good Morning Market. Nicolas Pagnès.
Il est 9h07 et vous êtes toujours en direct sur BFM Business dans Good Morning Market avec un CAC 40 qui gagne 0,5% à l'heure actuelle à 8522 points. Nous avons le plaisir d'être avec Laurent Chauderge, membre du comité d'investissement chez BDL Capital Management, pour cette première rubrique de l'émission En Portefeuille. Bonjour Laurent.
Bonjour Nicolas.
Merci d'être avec nous. Alors, effectivement, donc la rubrique En Portefeuille, merci d'être avec nous. Il y a eu plusieurs actualités qui ont animé les marchés depuis hier soir. À noter qu'aujourd'hui SpaceX entre dans le Nasdaq 100, que Nasdaq a fait évoluer ses règles d'entrée dans un indice donc boursier pour SpaceX. C'est la première actualité. Ça va créer un certain nombre de flux, notamment en matière d'ETF, donc les sociétés, les grands gestionnaires d'ETF qui vont être obligés d'acheter des actions SpaceX, et donc ça va créer une pression acheteuse sur le titre. Ça, c'était la première actualité du jour. Puis on a découvert cette nuit les résultats, en tout cas la prévision de résultats de Samsung pour le deuxième trimestre 2026. Un bénéfice d'exploitation multiplié par 19. Et le titre qui a plongé jusqu'à moins 9% lors des échanges à Séoul cette nuit, qui recule à l'heure actuelle de près de 7%. Deux éléments qui me semblent faire une bonne introduction à la question que j'ai envie de vous poser. Tous les gérants ont-ils forcément de l'IA en portefeuille aujourd'hui, Laurent, quoi qu'il arrive ?
Alors, il y a beaucoup de gérants qui ont de l'IA, notamment ceux qui sont un peu benchmarkés, qui suivent l'indice, parce que dans les indices, il y a beaucoup d'IA, donc vous êtes obligé finalement d'en avoir. Quand vous n'êtes pas benchmarké ou vous avez une plus grande liberté, vous avez plus de choix. En l'occurrence, chez BDL Capital Management, dans nos fonds principaux comme BDL Rempart ou BDL Conviction, on n'a pas d'IA actuellement.
D'accord.
Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas eu, qu'on n'en aura jamais, mais actuellement, on n'a pas d'investissement lié à l'IA.
Comment on justifie le fait de ne pas investir sur les valeurs liées à l'IA dans le contexte qu'on connaît actuel ? Alors effectivement, je citais Samsung parce qu'il y a un certain nombre de doutes sur la soutenabilité de la demande, mais il y a quand même des chiffres d'affaires et de bénéfices qui sont assez impressionnants, des parcours boursiers qui sont assez impressionnants. Comment on justifie de rester à côté de l'IA à l'heure actuelle ?
Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de croissance et on est les premiers convaincus du potentiel de l'IA. On l'utilise chez BDL Capital Management. On utilise tous les modèles existants, ChatGPT, Gemini, Claude, etc. On n'a pas d'inquiétude sur le fait que ça va révolutionner les industries, mais vous savez que de temps en temps, la croissance industrielle ne rime pas forcément avec performance boursière. Un bon exemple récent, si vous regardez sur la défense, Rheinmetall a perdu 40% en 6 mois.
Bien sûr.
Et ça n'empêche pas les budgets défense d'être en croissance et d'avoir une visibilité sur 10 ans. Donc il faut faire attention entre les attentes du marché, qui est un peu un mécanisme, une machine anticipée, et ce qui se passe réellement. Et Samsung est un bon exemple, je pense, où, comme vous dites, les profits sont multipliés par 19,
oui.
Pourtant le titre baisse.
Trimestre record en plus, hein, donc globalement, il y avait tout pour plaire au marché.
Exactement, donc les attentes sont très élevées. Donc ce qu'il faut regarder, je pense, hein, ou en tout cas c'est comment nous on travaille, c'est dans une histoire de croissance comme celle-là, est-ce qu'il y a des sources de fragilité qui font qu'il faut être un peu vigilant. Et nous, on pense qu'il y a trois sources de fragilité dans l'histoire IA à ce stade. C'est premièrement, il y a une bascule sur le financement des hyperscalers. Donc, on parle de Amazon, Microsoft,
bien sûr.
Meta, Alphabet, notamment, et Oracle. Si vous regardez sur les 5 dernières années, c'était parfait pour l'actionnaire parce qu'il y avait une très forte croissance. Ces gens-là avaient beaucoup de cash flow et en plus rachetaient des actions.
Bien sûr.
Et maintenant, on bascule. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'investissements qu'ils n'ont plus de cash flow après investissement. Ils avaient encore 200 milliards l'année dernière en agrégé, ils n'en ont plus du tout. Donc, ils diminuent leur rachat d'actions et ils font des augmentations de capital. On a vu Alphabet Vous parliez de SpaceX, on devrait avoir Anthropic.
Bien sûr.
Donc, tout d'un coup, un afflux d'actions sur le marché parce qu'ils ont besoin de financement externe. Donc, il y a une bascule, l'histoire change sur le financement.
Mais avec quand même des promesses de résultats qui sont toujours là aujourd'hui, en tout cas quand on écoute les dirigeants de ces entreprises-là.
Non, les promesses sont là et probablement que sur 2026, elles seront délivrées. Mais le Samsung est le bon exemple, le marché s'est projeté beaucoup plus loin. Le deuxième sujet, et qui revient sur les résultats futurs, c'est qu'il y a une bascule sur l'exécution. On passe des annonces de CapEx à l'exécution maintenant. Mm-hmm. Et si vous regardez, il y a de plus en plus de délais d'approvisionnement qui s'allongent. Si vous prenez par exemple le cas d'un transformateur qui est clé pour abaisser la tension électrique dans un data center, avant vous l'aviez en 12-18 mois, maintenant oui. Ça vous prend 3 ans. Un disjoncteur, c'était en 6 mois, maintenant c'est plus de 3 ans. Donc, il y a même des études qui vous disent que sur les data centers annoncés pour 2026 et 2027, plus de la moitié, vous n'auriez pas encore mis la première pierre sur le chantier.
D'accord.
Donc vous allez avoir un sujet d'exécution et c'est ce qu'on a vu dans la défense. Pourquoi Rheinmetall baisse de 40%? Pas parce que les budgets défense tout d'un coup se compriment. Parce qu'on est rentré dans la phase d'exécution, la chaîne d'approvisionnement est tendue, les livraisons ne sont pas aussi rapides que prévu, les budgets sont un petit peu revus et tout ça finalement avec un marché qui a beaucoup d'attentes et derrière vous êtes déçus boursièrement, je parle. Et le troisième
et ça,
point,
pardon. Oui, alors je vous laisse finir puis après.
Non. Et le troisième source de fragilité, selon nous, c'est la question qui va venir sur la rentabilité oui. de tous ces investissements. Et là, la question est un peu insoluble. Hein. Quand vous regardez, enfin nous, on a fait des travaux là-dessus. Hein. Quand on essaie de regarder les investissements qui vont être faits par ces grands hyperscalers sur les 5 prochaines années, donc j'ai dit 2030, on pense qu'ils vont mettre sur la table 6 000 milliards de dollars. Mm-hmm. Pour vous donner une idée, 6 000 milliards de dollars. Le dernier grand déploiement, c'était la fibre optique dans les années 2000. C'est un cycle qui a duré 7 ans, qui a coûté 800 milliards de dollars.
D'accord.
De dollars d'aujourd'hui.
Là, on parle quoi? Au niveau européen? Au niveau mondial?
Oui, mondial.
D'accord.
Donc, du coup, c'est même pas ce qu'ils vont dépenser juste en 2026. Donc, 6 000 milliards, c'est juste colossal. Et après, il faut les rentabiliser. Et donc, quand vous faites des hypothèses pour les rentabiliser, nous, on calcule qu'il faut trouver d'ici 2030 3 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires.
Bien sûr. De vente, de revenus.
Oui, c'est ça. Exactement. Et quand vous regardez, vous prenez OpenAI, par exemple, et Anthropic, hein, qui sont l'essentiel du marché actuellement, vous prenez leur chiffre d'affaires au mois de mai et vous le multipliez par 12, vous êtes grosso modo à 160 milliards. Donc, il vous manque 2940 milliards à trouver en moins de 5 ans.
D'accord.
Et donc, ça va être compliqué. 3 000 milliards, dites-vous bien que c'est l'intégralité du budget mondial de logiciels et de services informatiques. Donc, ce n'est pas des petites sommes, en fait. Donc, le plus probable, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte que la rentabilité n'est peut-être pas au rendez-vous, en tout cas, à échéance 2030.
Et ça vaut pour le secteur au global. Il n'y a pas de sélectivité à avoir aujourd'hui. C'est des attentes de marché qui sont trop hautes, quels que soient les grands noms de la tech et de l'IA aujourd'hui.
Oui, sauf qu'on commence à assister à une déconnexion. Vous avez vu, depuis le début de l'année, les hyperscalers sont peut-être moins recherchés que les valeurs de semi-conducteurs, etc. Et donc, la même annonce pourrait causer des performances différentes. C'est-à-dire que si demain, les hyperscalers ou certains hyperscalers vous disent finalement, j'ai fait mes investissements, je calme un petit peu le rythme d'investissement, je pense que ça sera positif pour eux parce que le marché commence à s'inquiéter de sous-tout investissement et ça sera très négatif pour la chaîne d'approvisionnement. Parce que tout d'un coup, on se dit, ah bah finalement, il y a peut-être un peu de surcapacité. Les prix qui ont été multipliés par 2, par 3, par 4, ça va peut-être un petit peu se calmer.
On n'aura malheureusement pas le temps de citer des valeurs, mais une dernière question, quand on n'investit pas dans l'IA, est-ce qu'on est contrariant jusqu'au bout? Et est-ce qu'on va, par exemple, vers les valeurs SaaS, dont on peut avoir des questionnements sur les valorisations à l'heure actuelle?
Alors, ça peut être une des stratégies. Et effectivement, c'est en partie ce qu'on a fait. C'est un segment dans lequel on n'était pas du tout. Et on a investi dans certaines entreprises dont on pense que le modèle économique est très protégé.
D'accord.
Et puis, il y a d'autres opportunités. Hein. L'intérêt pour l'IA crée des effets d'éviction majeurs sur d'autres secteurs qui n'ont jamais été aussi peu chers depuis 15 ou 20 ans. Et là, vous avez des opportunités très intéressantes. On a notamment augmenté nos investissements dans la consommation courante et dans la santé.
Encore faut-il que le marché ait envie demain d'y croire avec vous et de sortir de la seule thématique IA.
Exactement. Mais quand vous regardez les valorisations de ces activités-là, vous êtes touché des points bas, les mêmes points bas que vous aviez touchés en mars 2000, avant que le marché se retourne. Et quand le marché se retourne, dites-vous bien que le Nasdaq en un an a perdu 62% et certaines de ces valeurs ont pris 40%. Donc quand il y a une rotation sectorielle très forte, vous pouvez gagner de l'argent. Il y a des secteurs qui vont monter, même si d'autres baissent fortement.
Merci beaucoup Laurent Chauderge de nous avoir accompagné dans Good Morning Market. Je rappelle que vous êtes membre du comité d'investissement chez BDL Capital Management. On était dans la rubrique en portefeuille et au lieu de regarder les valeurs qu'on a en portefeuille, on a regardé pour une fois celles que l'on assume de ne pas avoir en portefeuille. Merci beaucoup et quant à nous, on passe tout de suite dans le focus du jour. Le focus du jour, c'est avec Fidèle Martin, président d'Exoé. Bonjour Fidèle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va rester dans la même lignée un petit peu de ce qu'on s'est dit avec Laurent Chauderge. Laurent Chauderge qui donc nous disait qu'il n'avait pas de valeur donc liée à l'intelligence artificielle en portefeuille et qui nous faisait la liste selon lui d'un certain nombre de fragilités, notamment sur la thématique. Et c'est justement ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Vous allez nous expliquer quelles sont les fragilités que ne veulent pas voir les marchés à l'heure actuelle, que les marchés refusent peut-être de voir jusqu'au dernier moment. En tout cas, celles que vous analysez, vous. Et vous constatez, on peut peut-être commencer par là, que les marchés réagissent plus aux annonces qu'aux fondamentaux. Bon, ça date pas d'hier, mais c'est toujours d'actualité.
Tout à fait. Depuis l'élection de Donald Trump, on s'est aperçu que ça a commencé globalement avec l'augmentation des droits de douane. Ça a duré une bonne année,
oui,
où les marchés ont fluctué en fonction des dires de M. Trump. On a vu ces derniers temps l'histoire avec l'Iran, où dès que Trump réagit en disant que c'est réglé, les marchés remontent, les Iraniens recommencent, voilà, rien ne s'arrange et les marchés continuent à fluctuer en fonction des nouvelles qui viennent des États-Unis.
Avec parfois quand même une petite lassitude sur les dernières annonces d'accord, où finalement on sentait que le marché achetait un petit peu moins, où il lui fallait quand même un peu plus de tangible, mais le constat reste le même au global.
Globalement, le marché, il est vrai que ces dernières semaines, il commence à se calmer un petit peu et à agir de manière moins radicale que précédemment. Les fluctuations étaient beaucoup plus importantes au début. Non, on s'aperçoit que de toute façon, chaque annonce est suivie d'une contre-annonce.
Bien sûr.
Donc oui. Les marchés réagissent différemment.
Donc ça, c'est la première fragilité, plus d'annonces que de fondamentaux. Quelles sont, selon vous, les autres fragilités que l'on voit aussi, que l'on voit à l'heure actuelle dans les marchés?
En fait, la liquidité en ce moment contribue aussi à faire évoluer la baisse des marchés, progressivement. Oui. Si elle disparaît, le problème qu'il y a, c'est que la liquidité est réelle jusqu'au moment où elle ne l'est plus. Lors des périodes de stress, les acheteurs disparaissent, les écarts entre les titres deviennent de plus en plus importants, et mécaniquement, les marchés baissent de manière beaucoup plus conséquente. Donc la liquidité est importante, la volatilité est importante aussi.
D'accord, ces derniers temps. Ça veut dire que la liquidité peut disparaître plus vite qu'on ne l'anticipe aujourd'hui. C'est une fragilité que vous identifiez chez Exoé?
Non, pour l'instant, la liquidité est toujours là. C'est récemment, tout va bien. Pour le moment, tout va bien. Mais on s'aperçoit qu'il y a moins de volatilité que ces derniers temps aussi.
D'accord.
Et la liquidité peut contribuer aussi à une panique plus importante dans les prochains temps. On a eu des fluctuations importantes il y a quelques mois. Ça se calme un petit peu récemment, puisqu'encore une fois, les annonces qui proviennent des États-Unis, commencent à être digérées de manière très différente. Mais oui, on s'aperçoit qu'il y a effectivement quelques signaux qui sont digérés différemment que précédemment.
Donc
j'allais parler également des banques centrales.
Ouais, d'accord.
Lorsque les banques centrales.
Donc on a parlé de volatilité, de liquidité, d'un marché qui réagit aux annonces plutôt qu'aux fondamentaux. Dans les fragilités, il y a aussi les stratégies des banques centrales.
Les banques centrales, depuis quelques mois, voire depuis 2 ans à peu près, n'ont plus la même importance. On ne considère pas les annonces de banques centrales comme elles étaient considérées précédemment. Une banque centrale annonçait une hausse des taux précédemment. Les marchés réagissaient de manière assez radicale. Aujourd'hui, on voit les banques centrales intervenir. Les marchés ont anticipé plus ou moins ce qui allait se passer. Et encore une fois, on réagit plus aux informations qui proviennent de la sphère géopolitique, de la sphère politique, que ce que communiquent les banques centrales.
C'est une mauvaise chose que les marchés réagissent moins aux décisions de banques centrales ou aux annonces de banques centrales? Ça change un petit peu le prisme d'investissement, mais est-ce que c'est une mauvaise chose fondamentalement?
Fondamentalement, c'est peut-être pas une mauvaise chose. On arrive à s'éloigner un peu de ces décisions qui avant contraignaient effectivement les investisseurs à agir assez rapidement. Aujourd'hui, de toute façon, vu les nouvelles qui tombent, on s'adapte à ce qui se passe
Bien
sur
sûr,
les marchés. Donc comme les nouvelles sont relativement importantes et elles arrivent de manière assez récurrente, les marchés commencent à réagir différemment. Mais on a effectivement des fluctuations qui s'atténuent ces derniers temps. Mais c'est vrai que les marchés changent en fonction de la géopolitique actuelle.
D'accord. Et donc la géopolitique, pour le coup, ça fait partie d'une fragilité. Parce que la question, c'est sur la fragilité dans les marchés. Ça fait partie d'une fragilité aujourd'hui dans les marchés. C'est vrai que une nouvelle annonce géopolitique, quelle que soit son ampleur, pourrait venir remettre en cause des scénarios d'investissement.
Globalement, on a vu avec les problèmes qui concernaient le détroit d'Hormuz, que les marchés ont souffert. On avait quand même 25% du pétrole mondial qui était bloqué sur ce détroit. Les marchés ont pas mal corrigé. Ils sont ressaisis, mais c'est vrai que c'était quand même une information relativement importante à traiter. Et savoir comment allaient réagir les différents gouvernements pour gérer ce problème, voilà, on est dans l'attente permanente. Et maintenant, c'est vrai que les problèmes géopolitiques sont intégrés également aux tendances de marché. Avant, on avait les fondamentaux, une valeur, affichait ses résultats, communiquait ses résultats. La valeur montait ou baissait en fonction des informations communiquées. Aujourd'hui, les valeurs communiquent leurs résultats. Il y a des informations parallèles qui contribuent à effacer un peu la tendance de l'analyse financière. Voilà.
Autant de fragilités à prendre en compte quand on est investisseur aujourd'hui et qu'on veut avoir une vision globale sur donc la stratégie à mettre en place. Merci beaucoup, Fidèle Martin.
De rien.
Merci. Je rappelle que vous êtes président de Exoé. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite en direct des marchés. En direct des marchés, c'est avec Paul Marcel, cofondateur de l'atelier des options. Bonjour Paul, on se retrouve avec un CAC 40 qui progresse de 0,68% à 8537 points. Quelle analyse vous faites du CAC 40 à l'ouverture, Paul ?
Ouais, bonjour Nicolas. Écoutez, on a eu une belle accélération sur le CAC 40 la semaine passée et sur une impulsion haussière en début de séance hier, on a comblé le gap laissé ouvert le 2 mars. Mais on a retracé ensuite toute la journée pour venir s'arrêter sur le support de 8474 points. Alors, la tendance de fond est toujours haussière. Donc, tant qu'on reste au-dessus de 8259, on peut utiliser les retracements, notamment sur le support intermédiaire de 8357, par exemple, pour se positionner à l'achat avec comme objectif le plus haut historique. Par contre, si ce support de 8259 venait à casser, alors le CAC 40 pourrait retracer à la baisse jusqu'à 7919 points.
Ça, c'était donc pour l'analyse du CAC 40. Si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté des valeurs à présent, Paul, il y a deux valeurs que vous avez choisi de décrypter avec nous ce matin, notamment BNP Paribas.
Oui, BNP Paribas, parce que le secteur bancaire est en forme, hein, secteur bancaire européen au sens large, et BNP, qui est notre plus grosse banque par capitalisation, qui est également en très grande forme. Donc, il faut savoir que côté statistique, il est intéressant de savoir que si on avait acheté BNP tous les 7 juillet en clôture et revendu au 25 septembre de chaque année, la performance de réussite aurait été de 84% sur les 19 dernières années. Donc, la saison estivale est historiquement favorable à BNP. Maintenant, d'un point de vue graphique, mon associé Romain Dobry avait signalé dans ses différentes analyses que BNP était sorti d'un triangle symétrique en bougie hebdomadaire et que la première cible haussière était 102,90 €. Alors, cette cible a été touchée, et la prochaine cible plus ambitieuse est maintenant se trouve à 109,56 €. Alors, attention, parce qu'il y a quand même un indicateur technique que l'on nomme le RSI, pour Relative Strength Index, qui crée ce qu'on appelle une divergence. Donc, les cours de BNP font des plus hauts, mais l'indicateur RSI, lui, ne fait pas des plus hauts. Donc, c'est habituellement un signe d'essoufflement de la tendance. Donc, si effectivement essoufflement il y a, les cours pourraient retracer jusqu'au support des 97,05 €, qui correspondent également au comblement du gap laissé ouvert le 15 juin.
C'est une tendance spécifique à BNP ou qu'on peut retrouver dans d'autres valeurs du secteur bancaire, Paul ?
Oui, effectivement. Comme je vous le disais, le secteur bancaire européen se porte bien. Donc, il y a un ETF Amundi qui est également en très grande forme. Donc, toutes les bancaires sont bien positionnées à la hausse au niveau européen.
Autre valeur que vous souhaitiez analyser avec nous ce matin, c'est PepsiCo. PepsiCo qui publiera ses résultats d'ailleurs cette semaine, qui ouvrira en quelque sorte le bal de la saison des résultats, même si le gros des publications interviendra un petit peu plus tard. Quelle analyse vous faites de PepsiCo, Paul ?
Oui, effectivement. Donc, cette semaine, on a Delta Airlines et puis on a Pepsi qui vont annoncer leurs résultats. Donc, comme vous le dites, c'est un prémisse, hein, parce qu'après, la semaine prochaine, nous avons les banques américaines qui vont annoncer des résultats. Donc, pour Pepsi, ce sera jeudi avant l'ouverture des marchés. Alors, du côté des options, les market makers pricent un mouvement de plus ou moins 4,8% d'ici l'expiration du mois de juillet. Et le put call ratio est de 0,92. Alors, ce qui signifie que les opérateurs sont prudents, mais sans excès. Alors, côté statistique également, il faut savoir que si on avait acheté Pepsi tous les 7 juillet en clôture et revendu au 13 août de chaque année, la performance de réussite aurait été de 89% sur les 19 dernières années. Donc là encore, on a également un mois de juillet et un début août qui sont historiquement favorables à Pepsi, même si, bien entendu, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Alors, d'un point de vue graphique, Pepsi est en tendance baissière. Alors, il y a un important support à 139,26$ qui a très bien fonctionné plusieurs fois. Alors, tant que ce support tient, on peut tenter d'accompagner un rebond et de trader les statistiques favorables, comme on vient de le voir, avec un objectif à 153,60 et un second objectif plus ambitieux à 166,50. Alors, par contre, si les résultats de cette semaine venaient à décevoir et que le support de 139,26 venait à casser, alors les cibles à la baisse seraient 133,90 dans un premier temps, puis 124,50 dans un deuxième temps.
Merci Paul Marcel de nous avoir accompagnés dans Good Morning Market. Je rappelle que vous êtes cofondateur de l'atelier des options. On se quitte sur un CAC 40 en progression de 0,64% à 8534 points. Un DAX qui lui recule, hein, moins 0,09% à 25794 points. L'Eurostoxx qui lui recule de 0,15% à 6388 points. À noter, hein, parmi les actualités à suivre sur les marchés aujourd'hui, c'est aujourd'hui que SpaceX fait son entrée dans le Nasdaq 100. Ce sera donc officiel dans quelques heures, donc sur les marchés aux États-Unis, hein, une entrée dans cet indice Nasdaq 100 qui va avoir un effet mécanique, hein, notamment de la part d'un certain nombre de gestionnaires d'ETF qui vont devoir acheter des actions SpaceX pour répliquer cette ETF nouvelle version, avec notamment SpaceX qui représentera un peu moins de 1% quand même de l'indice. C'est important à noter. Et puis on note que Voyageurs du Monde a annoncé vouloir lancer une EPA pour sortir l'entreprise de la cote Voyageurs du Monde, qui progresse d'une vingtaine de pourcents ce matin et qui a un titre qui vaut 177€ à l'heure actuelle. Voilà pour l'actualité des marchés. Restez avec nous sur BFM Business, puisque dans un instant vous retrouverez les experts. Et quant à moi, je vous dis à demain matin.
Good Morning Market sur BFM Business.